Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous-nos Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler sport et nutrition aujourd'hui dans Priorité Santé, une émission enregistrée le 19 février dernier que nous vous proposons maintenant de réentendre pour choisir une alimentation adaptée à son organisme, à ses besoins, pour adopter un régime imposé par une maladie chronique ou bien manger pour contrôler son taux de sucre lorsque l'on souffre de diabète, contrôler sa consommation de sel, limiter aussi la prise de poids pendant la grossesse. Alors, est-ce qu'il y a des aliments à éliminer, des indications aussi pour bien manger et des conseils pour bien bouger? L'activité physique, autre grand pilier de la prévention en matière de santé, comprendre quel sport est bon pour nous, pour le corps, pour le moral, avec des questions sur la discipline la plus adaptée à notre situation et à quel rythme, quel bienfait en attendre, des questions pratiques et des réponses concrètes. Une heure spéciale sport et nutrition en compagnie de nos deux chroniqueurs autour de cette table, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport à Paris, médecin de l'équipe de France de judo, et Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Prévenir des maladies chroniques, lutter contre la fatigue, se relaxer, bien manger, là aussi, la prévention c'est l'affaire de chacun. Et nous avons un premier auditeur en ligne de Madagascar, à Antananarivo, c'est Marcus. On écoute votre question, Marcus.
Je voudrais savoir quelle est l'alimentation adaptée pour faire du sport, c'est-à-dire du jogging chaque matin, faire du sport quotidiennement.
Vous faites du sport tous les matins. On va d'abord poser la question à Stéphane Besançon. Quoi manger justement au petit déjeuner, puisqu'il dit tous les matins, lorsqu'on vient de courir? Juste une question, Marcus, votre séance sportive, elle dure combien de temps?
Une trentaine de minutes.
Après avoir couru, Stéphane, une trentaine de minutes.
Alors, la base déjà, c'est d'essayer, j'allais dire, d'avoir un peu d'énergie, d'essayer d'avoir un petit déjeuner un peu consistant avec un peu de glucides pour avoir un petit peu d'énergie avant de faire ce jogging, pour éviter de partir faire le jogging le ventre vide et de risquer soit une hypoglycémie, soit de pas avoir forcément la performance souhaitée parce qu'on n'a pas le substrat, hein, l'énergie nécessaire pour faire cette activité physique. Et donc ça, c'est plutôt avant, donc plutôt des sucres lents, on va dire, plutôt avant l'activité et pas juste avant pour pas non plus avoir le ventre complètement plein au moment de démarrer son jogging et pouvoir là aussi avoir une activité correcte. Et après, le deuxième enjeu, ça va être après l'activité de pouvoir avoir là aussi une collation ou quelque chose de raisonnable pour récupérer un petit peu et une hydratation aussi importante pendant l'activité et après l'activité. Voilà, donc ça, pour moi, les deux choses clés, c'est d'avoir un substrat énergétique, j'allais dire, minimum pour partir faire l'activité physique, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les questions, de savoir est-ce qu'on peut partir faire de l'activité physique
le ventre vide.
Et après, d'avoir aussi suffisamment en récupération pour pouvoir repartir sur de bonnes bases aussi pour le reste de la journée.
Avant de donner la parole au docteur Jean-Marc Sen pour vous répondre également, j'ai cette question, Marcus. Vous faites quoi, vous, aujourd'hui? Vous mangez avant? Vous mangez après? Qu'est-ce que vous faites?
On boit un peu tôt et puis en revenant aussi.
Vous mangez un petit peu avant, vous fractionnez un petit peu avant, un petit peu après. Alors, docteur Jean-Marc Sen, manger avant, c'est quelque chose, comme le disait Stéphane Besançon, quelque chose d'indispensable?
Ah oui, c'est quelque chose de très important. Alors, quelquefois, effectivement, comme Stéphane le disait, les gens se disent, mais voilà, je vais courir à jeun. Et l'objectif, souvent, c'est d'essayer de perdre du poids. Et alors, c'est vrai qu'il y a cette efficacité, parce qu'on va faire, on va brûler les graisses, on va faire ce qu'on appelle une lipolyse. Mais le problème, c'est qu'on fait aussi une myolyse, c'est-à-dire qu'on brûle aussi le muscle. Et donc, le faire trop souvent, eh bien, ce n'est pas une bonne chose, puisque le muscle, ça nous sert tout de même à faire cette activité physique. C'est un rôle métabolique important et donc c'est important de le conserver.
Voilà, Jean-Marc, pour cette réponse. Manger un petit peu avant, vous vouliez ajouter quelque chose, Stéphane ?
Non, c'est exactement la même chose parce que on a très souvent ça. Les gens vont vers cet argument-là qui est très utilisé, c'est-à-dire je veux perdre des graisses, je veux brûler des graisses, en oubliant souvent que du coup on a une fonte possible si on le fait à répétition de masse musculaire qui est pas bonne non plus. Et donc voilà. Donc c'est ça qui est très très important à comprendre, c'est qu'il faut pas brûler des graisses à n'importe quel prix non plus.
Voilà, Marcus, pour cette réponse. Merci beaucoup pour votre appel d'Antananarive. On va partir pour le Congo-Brazzaville maintenant. Pointe Noire, c'est Jean-Mathias qui est en ligne. Bonjour Jean-Mathias.
Bonjour madame.
On écoute votre question, Jean-Mathias.
Oui, en fait, ma question elle est mélangée en fait avec une expérience. Je voulais juste savoir, parce que je suis asthmatique de naissance. Et je pratique actuellement du sport d'un peu plus longtemps, je peux dire peut-être 10 ans. Et du coup, j'ai constaté que j'ai réduit les crises asthmatiques depuis que je pratique le sport. Donc ma question, elle est la suivante. Est-ce que justement la pratique du sport peut éloigner, comme constater, les crises que je pouvais souffrir avant? Je n'en souffre plus comme je les souffrais avant. Les crises étaient séparées de 1 mois, 2 mois. Au jour d'aujourd'hui, depuis que je fais le sport, des fois j'ai 4 mois, j'ai pas de crise. Est-ce que cela vraiment est dû au sport que je pratique, parce que je pratique l'athlétisme. En fait, c'était ça ma question.
Docteur Jean-Marc Sen, courir, est-ce que c'est bon quand on est asthmatique? D'après ce que nous dit Jean-Mathias, pour lui, en tout cas, ça a été bénéfique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Alors, la chose aujourd'hui qui est bien reconnue, c'est que le fait de faire du sport quand on est asthmatique est une bonne chose. Alors pendant longtemps, c'est vrai, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était mauvais. Il y a comme ça des générations d'élèves qui ont été privés de sport, dispensés de sport parce qu'ils étaient asthmatiques. Alors, ce qu'on essayait d'éviter à l'époque, c'était l'asthme induit par l'exercice. Vous savez, cette crise d'asthme en début d'exercice, lorsque l'exercice démarre de manière très intense, que éventuellement la personne est stressée, que le milieu est relativement froid ou pollué, eh bien, quelquefois les bronches se spasment. Mais maintenant, ce qui a été démontré, c'est que quand on fait du sport de manière régulière, eh bien, premièrement, cet asthme induit, eh bien, apparaît beaucoup plus tardivement, et la fréquence même des crises d'asthme diminue. Donc, ce que décrit tout à fait Jean-Mathias, c'est tout à fait logique et tout à fait décrit. Et c'est pour ça même qu'aujourd'hui, c'est même presque une prescription que de faire de l'activité physique quand on est asthmatique.
Ça fait partie en même temps du traitement.
Oui, donc, bravo, il faut absolument continuer.
Voilà la réponse de Jean-Marc Sen. Jean-Mathias, continuez à courir puisque c'est très bon pour vous apparemment. Stéphane, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela sur justement cette activité physique qu'il faut continuer à faire, y compris quand on a des maladies chroniques?
Oui, je pense que c'est central aujourd'hui. C'est une des grosses recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. On se rend compte que l'effet bénéfique de l'activité physique est très large en termes préventifs, donc pour prévenir beaucoup de maladies, et de l'autre côté en termes curatifs, c'est-à-dire en traitement de pas mal de maladies. On parle du diabète, on parle de l'hypertension ou d'autres pathologies où l'activité physique adaptée, bien sûr, vient vraiment en complément de thérapie et est très très importante.
Merci beaucoup Jean-Mathias pour votre appel de Pointe-Noire. On va rester au Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, on va rejoindre Jelika qui se trouve à Brazzaville. On vous écoute, Jelika.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, j'ai 3 questions. La première question concerne l'alimentation des enfants. J'ai des enfants dont l'âge varie entre 3,5 et 6,5 ans. Donc, j'ai 3 garçons. Et j'ai du mal à introduire les légumes, que ce soit les épinards, les carottes, les petits pois. J'ai beau leur dire que quand si vous en mangez, vous serez de plus en plus intelligent, mais ils sont toujours là à faire le tri dans l'assiette, quand bien même je le mélange dans du riz ou les pâtes. Donc je ne sais pas quelle est la méthode que je vais utiliser pour mieux introduire les légumes dans leur alimentation. Et ma deuxième question est, je viens d'accoucher et j'ai eu à prendre du jus d'ananas pendant au moins 3 ou 4 jours. Et comme j'allaite, et je ne savais pas que l'ananas avait un effet amincissant ou dégraissant. Et ma question est, si je continue de prendre du jus d'ananas, parce que mon but, ce n'est pas de grossir ou de maigrir. Bon, ma question est-ce que en prenant du jus d'ananas ou encore le fruit frais et tout, est-ce que ça aura un impact dans le lait que l'enfant prend, est-ce que ça va causer des diarrhées ou est-ce que la consommation du jus de l'ananas aura un effet sur l'allaitement?
Alors, on va reprendre ces questions avec Stéphane Besançon. D'abord, le jus d'ananas, c'est vrai que régulièrement, en tout cas, on voit ça sur Internet ou dans des journaux, on nous présente des aliments miracles, l'aliment qui fait maigrir, l'aliment qui fait ci, l'aliment qui fait ça. L'ananas en fait partie, Stéphane Besançon. Et Stéphane, vous êtes là pour combattre ces rumeurs sur l'alimentation. Je pense que là, Jelica peut continuer à boire du jus d'ananas. Elle ne va pas perdre, elle ne va pas fondre. Hein.
Oui, alors non, ce serait magique si l'ananas permettait de faire justement ce que Jean-Marc disait tout à l'heure, de la lipolyse et de faire disparaître toutes les graisses. On aurait un aliment miracle.
On aurait un boom sur l'ananas.
On aurait un boom sur l'ananas, un aliment miracle. Non, il n'y a pas de miracle avec l'ananas. Elle peut continuer à boire le jus d'ananas sans problème. Alors après, ce qu'il faut faire attention par rapport à la deuxième question, qui est la question de l'allaitement, c'est de savoir est-ce que c'est du jus d'ananas. C'est là la différence que je ferais industrielle, c'est-à-dire où là, ben peut-être que pour elle-même, il faut en boire moins parce que ça va être très sucré, etc. Mmh. Ou si c'est du jus, j'allais dire naturel, où là, plus on va diversifier en fruits et en légumes l'alimentation de la mère, et meilleur, j'allais dire, va être le lait pour l'allaitement après, puisqu'il va, on évitera toutes les carences en micronutriments, en vitamines et en minéraux. Donc si c'est de l'ananas frais, j'allais dire, il faut continuer, c'est un facteur de diversification alimentaire, comme beaucoup de fruits et légumes. Maintenant, si c'est de l'ananas industriel, un jus très très sucré, et ben là effectivement, un, il faut faire attention pour la maman elle-même, et de deux aussi pour cette addiction que l'on documente de plus en plus très tôt chez l'enfant au sucre et au goût sucré qui est pas encore totalement démontré, mais il y a beaucoup de papiers qui sortent aujourd'hui pour dire quand même qu'il y a une addiction de plus en plus tôt au sucre et au goût sucré.
Alors, Jelica, voilà pour l'ananas. L'autre question portait sur la diversification des légumes. J'ai une question, Jelica, vous dites, enfant de 3 à 6 ans, je commence la diversification. Vous n'avez pas introduit ces légumes un petit peu plus tôt dans leur alimentation?
Je le faisais quand ils étaient un peu plus bébés, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, quand je fais des pâtes ou du riz, je mélange toujours, quand je veux faire un peu un genre de riz cantonais, ils passent leur temps à trier, même si c'est de l'oignon, ils ont remarqué, ou bien c'est du chou que j'ai mis, ils vont trier, ils vont tout enlever.
Donc c'est plutôt l'inverse, ils en mangeaient quand ils étaient petits, puis plus ça va, plus ils deviennent un petit peu des enfants normaux, c'est-à-dire qu'ils regardent ce qu'il y a dans l'assiette, Stéphane Besançon, et qu'ils font le tri.
Oui, c'est très classique ça pour le coup, parce que tout petit, on arrive à diversifier, l'enfant il mange ce qu'on lui donne, et puis après il acquiert sa conscience et sa capacité justement à discerner, à regarder, à comprendre.
Et à dire non.
C'est vrai que sur les légumes, c'est quand même un passage que tout parent connaît à un moment, et je pense qu'il faut pas non plus être brutal et aller trop en force parce que ça marche pas beaucoup, mais à un moment il faut aussi quand même que ça fasse partie, j'allais dire, du rôle éducatif de dire aux enfants, bah il y a ça, il faut le manger, et puis voilà. Après la question est peut-être aussi, pour qu'ils aient le goût réel des légumes en tant que tels, peut-être de pas mettre des petits morceaux dans du riz ou des choses comme ça, mais peut-être d'essayer de préparer les légumes, j'allais dire, de manière plus massive, c'est un vrai plat de légumes, et d'essayer de l'agrémenter, de trouver j'allais dire, la préparation où ils vont avoir envie de manger ces haricots, ce chou, etc. C'est un passage qui est difficile, il n'y a vraiment pas de recette miracle, je pense que tous les parents sont passés par là, mais à un moment, il ne faut pas être trop rude pour ne pas les dégoûter totalement, mais il ne faut pas être trop flexible non plus de l'autre côté totalement insister sur ce côté éducatif et se dire c'est important, et peut-être si c'est des garçons aussi, de revenir sur le côté, on en parle depuis tout à l'heure, de l'activité physique, que c'est important aussi d'avoir une alimentation équilibrée pour bien développer son corps, pour pouvoir faire, s'ils aiment le football, s'ils aiment d'autres choses, d'être en bonne santé, d'avoir aussi ce lien, pas que intellectuel, mais ce lien plus global, alimentation équilibrée et santé.
Voilà, Jelica, pour ces deux réponses. Merci beaucoup pour votre appel de Brazzaville au Congo. On va maintenant partir pour la République démocratique du Congo, la ville de Goma. Nivar est en ligne. Bonjour Nivar.
Bonjour Anta.
Nivar, on écoute votre témoignage et votre question.
Oui. Ma question est de savoir quand est-ce qu'il faut faire l'espoir. Est-ce qu'il faut le faire pendant le coucher du soleil ou pendant la levée du soleil? Et faire l'espoir pendant le coucher, ou bien pendant la levée du soleil. Lequel est le meilleur?
Alors, faire du sport le matin ou le soir? Cette petite question, Nivar, aujourd'hui, vous courez beaucoup et vous courez quand?
Oui, et moi je cours, donc je commence la course à 5 heures et je termine vers 7h30 et 8h.
Donc 2h30 de course, c'est beaucoup, hein, ça tous les jours. Vous courez peut-être pas tous les jours, plusieurs fois par semaine?
Bon, je cours, disons, 3 fois par semaine, lundi, mercredi et samedi.
Jean-Marc Sen, Nivar, grand sportif, hein, 2h30, 3 fois par semaine. Je dis bravo déjà pour commencer parce que c'est très spectaculaire. Alors, il se pose la question, c'est vrai que ça lui prend beaucoup de temps dans la journée, le matin, le soir. Est-ce qu'il y a une préférence? C'est peut-être aussi en fonction de la température qu'il fait, du sommeil. Il y a beaucoup de conditions.
Oui, alors effectivement, donc bon, félicitations bien évidemment pour cette course. Alors effectivement, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Et là, on va parler bien sûr du rapport au temps, de la chronobiologie. Alors effectivement, on sait que, vous savez, l'organisme a un ensemble de rythmes qui sont relativement réglés. Et on sait que il y a des périodes, d'une manière générale, où tel type d'entraînement est plus profitable. Alors classiquement, c'est vrai que les entraînements en endurance sont plutôt profitables le matin. Ça, c'est tout à fait vrai. Il est mieux de faire des entraînements de force plutôt l'après-midi d'une manière générale. Alors donc, si un conseil on pouvait donner, c'est effectivement cela. Mais effectivement, il y a aussi l'environnement qui peut jouer. La température extérieure, s'il en ville, des pics de pollution qui peuvent arriver. Et donc là, quelquefois, il vaut mieux préférer effectivement courir à un moment où il y a moins de pics de pollution, c'est-à-dire le matin où il fait pas trop chaud et où en plus il y a une conjonction avec la chronobiologie. Chronobiologique et individuel, c'est-à-dire qu'en fonction des individus, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose. Le soir, on le déconseille d'une manière générale parce que souvent, eh bien, ça augmente la température du corps, ça va un peu perturber le sommeil. Mais là aussi, c'est en fonction des individus. Donc, j'ai envie de dire, a priori, plutôt le matin, mais ensuite, il faut être très pragmatique, il faut voir comment lui le ressent et comment ça se passe dans son fonctionnement quotidien.
Vous courez 2h30, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez un régime particulier, justement, avant ces performances, hein, répétées 3 fois par semaine?
Avant de courir, donc là, je ne mange pas. Après le sport, je peux prendre le thé vert. Disons, pas 30 centilitres avec le pain. C'est ce que je crois.
Jean-Marc Sen a envie de réagir. Ah. Hein.
Alors, on retombe un petit peu dans la question qu'on a tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne pas manger. Alors effectivement, sport d'endurance, l'intérêt de maîtriser le poids. Mais attention, le verre capte le fer. Le fer, c'est absolument essentiel dans, bien sûr, le transport des globules rouges et de l'oxygène, et donc dans les sports d'endurance. Donc il faut faire attention à ce thé vert, parce qu'il va capter le fer. Et puis, il faudra penser, bien sûr, outre la réhydratation, à apporter des sucres, des glucides, pour pouvoir se reconstituer.
Vous restez avec nous, docteur Jean-Marc Sen, Stéphane Besançon. On va se retrouver dans quelques minutes après une petite pause musicale.
Mon amour, je t'invite à danser avec moi. Mon amour, je t'invite à danser avec moi. Chai gere na nga pani bo, chai gere na nga fasi bo. À toi, mon bébé, on te dit rien là. Na 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 na
cariñe, cariñe. Ay, el choco cariñe, cariñe. Ay, aquí se ne cariñe. Y munu munu choco ne cariñe. Don pie, mon pie. Pasa pa, anganya con doggy doggy. Anganya con doggy doggy. Y cheque se la bouge, y cheque se la danse. O de benaya na je. Anganya con ferege, doni, doni. Anganya con josi, doni, doni. Anganya con ambiance, doni. O beba dia, o beba ngalabuni dia. Anganya con ferege, doni, doni. Anganya con josi, doni, doni. Anganya con ambiance, doni. O beba dia, o beba ngalabuni dia. Mi añore, con añore, bebé. Je t'aime, je t'aime. My ladies, te quiero, bébé. Y qu'on a complexé, bébé. Mon éveille est fait, bébé. Y qu'on a complexé, y qu'on a complexé. Viens, on va chauffer, bébé. Y qu'on a complexé, bébé. Mon éveille est fait, bébé. Y qu'on a complexé, y qu'on a complexé. Viens, on va danser. Viens, bébé.
Sidiki Diabaté sur RFI. On se retrouve donc toujours dans Priorité Santé pour cette émission spéciale sport et nutrition avec nos chroniqueurs. L'activité physique pour la prévention des maladies chroniques, mieux dormir, protéger son cœur, bien manger. On a dans la cuisine des atouts pour mieux se porter. Pour revenir sur la question que posait tout à l'heure Nivard, hein, qui était en ligne de Goma, en République démocratique du Congo, il disait s'abreuver de thé vert après ses courses matinales. Il passe 2h30 à courir, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Sans rien dans le ventre, du thé vert, docteur Jean-Marc Sen, vous nous avez dit que ce n'était pas très bon parce que ça élimine trop de fer. Alors plutôt que du thé vert, qu'est-ce que vous conseilleriez à Nivard ?
Alors, l'idéal pour Nivard, c'est de prendre une boisson de récupération. Alors, la boisson de récupération n'est pas très éloignée de la boisson de l'effort, qui est en fait un mélange simple. Voilà, une recette toute simple qu'on peut utiliser, c'est de mélanger la moitié d'un volume de jus de fruits, l'autre moitié d'une eau gazeuse. Et puis, avec tout cela, on met une pincée de sel. Comme l'eau est gazeuse, quelquefois, on supporte pas tout à fait bien le gaz, on peut agiter pour enlever ce gaz. Et là, on a une boisson tout à fait complète qui contient tout ce qui est nécessaire. De l'eau, des glucides, du sel, des oligo-éliminants, voilà, qui sont parfaits, en fait, pour pouvoir récupérer. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important parce qu'il faut bien sûr avoir des carburants, bien être hydraté, puis être capable de transporter de l'oxygène, ce que permet de faire le fer en formant l'hémoglobine.
Alors, on va donner la parole à un autre auditeur de Priorité Santé. Cet auditeur, c'est Claude, il appelle du Cameroun de Douala. Bonjour Claude.
Bonjour Caroline.
Alors, une question, c'est un papa qui pose sa question, on vous écoute.
Alors Caroline, je suis papa de deux enfants, de 4 et 6 ans. Alors, j'ai des questions qui me sont très prioritaires. Je voudrais dire, je voudrais poser ma question de savoir, journalièrement, quelle devrait être l'alimentation des enfants, je vais dire le petit déjeuner, le dîner, de manière détaillée, qui leur garantit une bonne santé et une bonne croissance physique et psychique. J'ai la deuxième, si je peux la poser immédiatement, je ne sais pas.
Allez-y, on va faire les deux, puis après on donnera la parole à Stéphane Besançon et au docteur Sen. On vous écoute.
D'accord. Alors, ma deuxième question était de savoir, très souvent, les enfants ont des habitudes alimentaires qui échappent à notre contrôle, et là, ils s'ingurgitent des saletés. Alors, je me demande quelquefois, comment est-ce que les débarrasser de ces saletés, des toxines qu'ils prennent entre-temps, quand nous ne sommes pas à leur contrôle, quand nous sommes absents. Et ma dernière question est de savoir, quelles sont les différentes pratiques sportives les mieux adaptées pour les enfants, pour les permettre, pour leur garantir une bonne croissance.
Merci beaucoup pour ces questions, Claude. On aurait pu faire toute l'émission seulement avec vos trois questions parce qu'elles sont vraiment très vastes. On va commencer, on va peut-être être un petit peu plus modeste. Stéphane Besançon, des conseils de bon sens pour nourrir des enfants de 3 à 6 ans?
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est difficile là, à l'antenne de faire une planification alimentaire, petit déjeuner, déjeuner, repas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir aux bases de la diversification et d'avoir un peu toutes les familles d'aliments dans une journée alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument apporter des céréales, ça va être du maïs, ça va être du mil, ça va être du sorgho. Là, il y a différents choix qui vont donner un peu le substrat énergétique. Ça peut être aussi des tubercules, ça va être la pomme de terre, par exemple, ou ça va être des racines comme le manioc. Donc ça, c'est ce qui fait dans les différents pays, j'allais dire, la base. Et autour de ça, ce qui est très important, c'est d'apporter un petit peu de viande, un petit peu de poisson, de mélanger les deux. Et surtout, et on en revient de manière centrale, c'est l'introduction, dans beaucoup de pays c'est compliqué, des fruits et des légumes, surtout pour les enfants, puisque ça va être très important d'avoir des minéraux et d'avoir des vitamines pour la croissance et pour avoir un bon développement de l'organisme. Donc ça, c'est vraiment. Et quand on parle de légumes, c'est pas, je le redis souvent, c'est pas deux ou trois petits bouts de légumes qui sont noyés dans une sauce, c'est vraiment une consommation de légumes. Il faut que ce soit une portion. C'est le fameux 5 fruits et légumes par jour qu'on a en France. Ça veut dire 5 portions de fruits et légumes par jour. Il faut arriver à les trouver, ces portions. Ça peut être un fruit le matin, ça peut être un fruit à 10 heures, ça peut être une portion de légumes à midi, un fruit à 16 heures et une portion de légumes le soir. Et comme ça, les enfants vont être en bonne santé. Ils auront surtout tout ce qu'il faut pour se développer. Maintenant, la question, la deuxième, des toxines.
C'est ça, ils s'inquiètent. En gros, les enfants qui sont un petit peu parfois livrés à eux-mêmes quand les parents sont occupés, qui mangent un petit peu n'importe quoi, éliminer les toxines une fois qu'elles sont ingurgitées.
Alors, moi, je dirais qu'il faut aller avant. Voilà, on va dire que Jean-Marc complétera après de la question de l'activité physique. À des moments, peut permettre d'éliminer certaines choses. Mais il faut, à mon avis, aller avant ça. Et c'est comment ne pas les ingurgiter. Alors, ça va être souvent ce qui est en train de revenir dans les médias beaucoup maintenant, la question des aliments ultra transformés, hein, tous les bonbons, toutes les barres, toutes les choses comme ça, qui souvent sont très grasses, très salées, très sucrées et contiennent très peu de micronutriments.
Le plus simple, c'est peut-être de ne pas les avoir à la maison.
Voilà, de ne pas les avoir à la maison, ou alors, et ce qui peut être compliqué des fois, d'éviter justement de donner, pour les collations par exemple, de donner l'argent qui vont permettre d'acheter ça. Après, je comprends le problème de Claude, et comme tout parent, si on donne 500 francs CFA ou 300 ou 200 à son enfant pour la collation, c'est très dur si on n'est pas avec lui de contrôler qu'est-ce qu'il va acheter. Surtout que souvent on trouve plus facilement quelque chose de très gras ou très sucré que de trouver un fruit frais par exemple. Ce qui, devant beaucoup d'écoles par exemple, dans beaucoup de capitales africaines aujourd'hui, on va avoir plus facilement une préparatrice qui va faire quelque chose de frit ou quelque chose de très sucré que de trouver quelque chose de bon. Donc peut-être le conseil aussi là, c'est des fois de prendre un peu de temps à la maison pour, au lieu de donner de l'argent pour acheter les collations, les préparer et que l'enfant parte à l'école avec une collation qui soit, j'allais dire, meilleure pour la santé.
Alors, deuxième volet de la question Claude, c'était, je m'adresse davantage là au docteur Jean-Marc Sen, il disait, quel sport est bon pour les enfants?
Mais alors, pour Claude, hein, Caroline, on peut dire, là aussi, c'est la diversification. Là aussi, il y a un intérêt à essayer d'aller faire des sports qui vont permettre de développer un certain nombre de qualités physiques et développer le schéma corporel, on va dire, de l'enfant. L'important, c'est aussi que ce sport soit ludique, parce qu'effectivement, l'enfant va devoir trouver du plaisir dans ce sport, et c'est important qu'il s'y amuse, évidemment. La socialisation, hein, d'être avec des camarades, ça aussi, c'est quelque chose qui va être important pour qu'il puisse avoir cette régularité. Et puis, Ça peut être intéressant d'avoir aussi des sports qui se passent aussi à l'extérieur. On sait par exemple que quand on est à l'extérieur, eh bien, on va bien être exposé, vous savez, au soleil, fabriquer de la vitamine D. Tout cela va avoir un intérêt dans la croissance, dans le développement, notamment des os. Et donc tout cela est important. Donc voilà, s'il y avait un mot à retenir, finalement, ça serait diversification.
Et donner aussi envie et suivre les envies de cet enfant. Oui. Merci beaucoup, Claude, pour votre appel. J'espère que vous avez eu des réponses assez complètes pour ces vastes questions pour l'éducation alimentaire et sportive de vos enfants. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. Autre appel, c'est Samba, qui est en ligne du Sénégal, de la ville de Matam. Nous sommes en ligne avec Samba. Bonjour.
Bonjour.
On écoute votre question, Samba.
Oui, je voudrais intervenir d'abord sur le fait que la pratique sport que je fais chaque jour. Donc, ça fait maintenant bientôt 10 ans que je fais du sport. Le matin, je fais le footing et le soir, des fois, je pars jouer au football. Et je m'entraîne aussi pour les muscles, mais je n'arrive pas à avoir les muscles comme ça. Maintenant, ma question est la suivante. Je voudrais que vous me conseillez. Donc, les aliments ou boissons que je dois prendre donc, pour être en forme et avoir des muscles.
Docteur Jean-Marc Sen, Samba, qui est pas satisfait apparemment de sa masse musculaire, qui voudrait se muscler, il court tous les matins, il joue au foot parfois le soir. Que doit-il faire pour se muscler?
Bon, alors là, c'est une très bonne question, absolument. Alors, là, moi, j'ai envie de dire que la première chose qu'il faut se poser, c'est... pourquoi prendre du muscle? Voilà, ça c'est la vraiment, c'est la vraiment
pas,
bonne
c'est
question.
C'est pas vilain à regarder, voilà, hein, on va voilà. dire.
Alors effectivement, souvent ça va être une motivation esthétique évidemment qui est là. Il faut quand même sur l'aspect sportif se rappeler quelquefois la force musculaire n'est pas uniquement dépendante de la masse musculaire. Ça c'est une première idée qu'il faut retirer. La technique d'utilisation, etc. peut donner une force musculaire alors que la masse musculaire n'est pas importante. Donc souvent il y a l'aspect effectivement esthétique et ça c'est à voir. Mais il faut savoir que la masse musculaire, elle est déterminée avant tout par la génétique. Alors là, ça c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il existe des profils, il faut savoir si dans la famille on a tendance à être plutôt fin, à être plutôt rablé ou plutôt tassé. Voilà, c'est comme ça, il y a un paramètre qui est génétique et on prend plus ou moins facilement du muscle. L'autre chose, évidemment, ça va être la programmation de l'entraînement. Hein, si on fait un sport qui est essentiellement un sport d'endurance, bon, c'est plus difficile de prendre la masse musculaire, il va falloir faire des efforts particuliers de soulèvement pour pouvoir essayer de développer cette force musculaire. Et puis enfin, oui, il y a beaucoup d'éléments intervient après l'alimentation où on peut effectivement avoir des apports en protéines et légèrement augmenté, pas trop, parce que là aussi il peut y avoir des effets secondaires, mais légèrement augmenté en protéines à certains moments clés qui sont plus intéressants.
Stéphane Besançon, vous avez envie de rajouter quelque chose justement sur cette part de l'alimentation pour avoir, j'ai utilisé un mot trivial, un peu plus de biscotto.
Mais là, dans la question de Samba, revient aussi la question de perte de poids. Donc à un moment, s'il dit plusieurs fois qu'il perd du poids, il perd du poids depuis 10 ans, c'est qu'à un moment, il y a aussi un déséquilibre dans la balance entre ses apports et ses dépenses. Donc c'est là qu'il faut aussi regarder, est-ce qu'il mange suffisamment? Et comme on disait avec Jean-Marc avant, est-ce que aussi il prend pas de muscle parce qu'il en perd, j'allais dire, s'il mange mal et qu'il brûle un peu sa masse musculaire, on peut avoir ce problème-là. Donc je pense qu'il faut regarder aussi côté de l'alimentation, qu'il soit bien sûr qu'il mange suffisamment et qu'il mange au bon moment. Ça aussi, ça va conditionner au moins le maintien du poids. Parce que du moment qu'il y a perte de poids, ça veut dire qu'à un moment, la dépense est supérieure aux apports. C'est automatique.
D'où cette question justement, Samba. Est-ce que vous mangez avant d'aller courir le matin?
Bon, le matin en courant, je ne mange rien. Et si je reviens, je mange un peu du pain.
Après, donc ça fait plusieurs auditeurs qui nous appellent, qui ont une pratique sportive assez intensive le matin et qui partent le ventre vide. Donc on va le redire, Stéphane Besançon, non, il ne faut pas partir le ventre vide.
Il faut éviter au maximum. Il faut plutôt justement manger un peu pour éviter cette fonte de masse musculaire.
Docteur Jean-Marc Sen.
Oui, alors bon, absolument cela. Et puis l'autre chose, c'est qu'un petit peu objectivité, c'est cette perte de poids. Hein. Quand on dit je perds du poids, il faut monter sur sa balance et savoir de quoi il s'agit. Alors si cette perte est relativement modérée, il n'y a pas tellement de soucis. Si vous vous rendez compte qu'effectivement vous perdez un pourcentage de poids relativement important, régulièrement plus de 5, 10, 15% de votre poids initial, donc quand même consultez votre médecin pour pouvoir rechercher aussi une cause extra-sportive.
Samba, voilà pour ces conseils. Merci beaucoup de nous avoir appelé du Sénégal. On va maintenant partir pour le Tchad. Djamena Abakar est en ligne. Bonjour Abakar.
Et bonjour Fabienne, bonjour tout le monde.
Vous aussi, vous êtes sportif, on vous écoute.
Ouais, en fait, moi, mon souci, c'est que je pratique une activité sportive presque régulière depuis un certain temps. Et là, au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte qu'au lieu de perdre du poids, j'ai pris quelques kilos de plus. J'étais vraiment déçu par ces résultats. Alors, ma question est la suivante. Comment peut-on expliquer cette prise de poids? Et est-ce que cela est dit en quelque sorte à l'alimentation? Voilà.
Docteur Jean-Marc Sen, grossir en faisant du sport, c'est tout à fait possible.
Et voilà, alors, Abakar, est-ce que c'était un démarrage sportif? C'est-à-dire, est-ce que, j'aurais envie de poser cette question, est-ce que au préalable, vous étiez plutôt sédentaire et ensuite vous vous êtes mis à faire du sport, par exemple?
Ouais, j'ai pratiqué du sport, j'ai arrêté pendant un temps avec les études à l'université et tout, et j'ai repris.
Alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, là aussi, on revient à la génétique. Hein, on disait tout à l'heure, on a un profil où on est plutôt mince, où on est plutôt musclé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on reprend ce sport-là, on va modifier sa composition corporelle. Et quand on modifie sa composition corporelle, on va perdre du gras, c'est vrai, et on va, quand on fait du sport, on va prendre du muscle. Mais ce qu'il y a, c'est que le muscle pèse plus que le gras. Et il arrive que des personnes qui se remettent à faire du sport, prennent du poids. Mais ce qui est important de regarder, c'est est-ce que vous avez perdu en tour de taille? Est-ce que vous vous rendez compte que votre composition, vous avez aminci, vous avez modifié votre silhouette, alors que votre poids global a augmenté? Très souvent, c'est cela que l'on peut observer. Donc ne pas regarder uniquement sa balance, mais regarder sa silhouette et son tour de taille. Et à ce moment-là, c'est tout à fait bénéfique. Il n'y a aucun souci.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane Besançon? Moi, j'aurais une question peut-être à Abakar. Est-ce que vous diriez que vous mangez plutôt gras ou que vous mangez plutôt équilibré?
Honnêtement, je crois que c'est pas tout à fait équilibré, en fait, parce que je prends aussi du gras quelquefois.
Stéphane.
Mais un des points soulevés par Jean-Marc, je pense, est essentiel parce que pendant très longtemps, c'est focalisé sur ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire qui classifie en fait le poids et la taille. Et en fait, on s'aperçoit, par exemple, si on prend aujourd'hui des joueurs de rugby qui vont être très musclés, mais qui vont être grands et lourds. Si on fait leur indice de masse corporelle, on va les mettre dans une classe, pratiquement, certains aller dans une classe obèse de l'OMS. Or, à un moment, ces gens-là n'ont aucun gras en trop, ne sont pas du tout obèses, ils sont de la masse musculaire très importante. Et donc, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de limiter, j'allais dire, la mesure de l'indice de masse corporelle pour aller vers ce que Jean-Marc a dit, le tour de taille, qui là permet vraiment de voir si on est face à du gras, hein, le fameux gros ventre qui pointe, ou alors si on est vers de la masse musculaire. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce que souvent, on a des gens qui viennent nous voir en disant « Ouais, mon IMC est l'indice de masse corporelle et je suis dans un IMC surpoids ou surpoids-obésité. » Et en fait, par moment, on a des gens qui sont pas du tout en surpoids-obésité avec de risques de maladie. C'est pas gras, du coup, c'est plutôt du muscle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble central à redire souvent.
Voilà pour cette réponse, Abakar. Merci beaucoup de nous avoir appelé du Tchad. On va maintenant partir pour le Mali où l'on retrouve Amina. Bonjour Amina.
Bonjour.
On écoute votre question.
Merci à vous. Voilà, j'ai deux questions. J'aimerais savoir quel sport pour développer la poitrine, les fesses, mais surtout les poignets, les bras, les chevilles, parce que j'ai des bras très, très maigres et c'est pas joli en Afrique. Deuxièmement, surtout que des enfants connaissent bien l'Afrique et j'aimerais savoir des aliments accessibles pour développer tout ça.
Alors, des aliments pour avoir des formes en quelque sorte. Stéphane Besançon, on vous écoutait. Je ne sais pas si vous allez avoir une solution miracle. En tout cas, si ça existe, on va prendre des notes. On vous écoute.
J'ai pas de solution miracle. Non, la question centrale, c'est à un moment de vouloir grossir parce qu'on sait que ça peut être valorisé dans beaucoup de pays d'avoir des formes et de pas être justement trop mince ou maigre et justement qu'on dise on est en mauvaise santé ou on a des problèmes parce qu'on est trop maigre. Ce qu'il faut faire attention à ça, j'insisterai plutôt là-dessus, plutôt que donner des aliments pour grossir, c'est de faire attention de pas grossir à n'importe quel prix et de faire attention parce qu'il faut pas se oublier que la prise de poids est accompagnée avec des conséquences santé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a l'esthétique, mais il y a aussi la santé. C'est-à-dire que de grossir de manière irraisonnée juste pour des questions esthétiques, c'est là où on augmente le risque de maladie cardiovasculaire, on augmente le risque de diabète, d'hypertension, etc. Donc je pense que d'abord, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça, parce que c'est une question qui revient beaucoup, hein, de dire, je voudrais prendre, nous, très souvent on est contacté, je voudrais prendre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, et quelqu'un qui a un physique, j'allais dire, normal, qui devrait rester comme ça, et ben de forcer aussi le métabolisme à prendre du poids à outrance, ça a des conséquences et des conséquences à long terme.
Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Sen ?
Absolument, c'est cela. C'est, en fait, à trop vouloir modifier son corps en dépit de sa génétique, peut poser des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut...
Il y a aussi une démarche psychologique d'acceptation de soi.
Hein, si on veut avoir trop de masse musculaire, trop de masse grasse, etc., et on force, on va vers des accidents et vers des problèmes de santé. Donc ça, il y a vraiment cette dimension qui est très importante et d'introspection, j'ai envie de dire, qu'il faut réaliser et accepter.
Voilà, Amina, conseil, acceptez-vous, faites de la santé, du sport qui est bon pour votre santé et mangez aussi de façon équilibrée. On peut pas vraiment se remodeler hein, par les moyens naturels. Très bonne journée au Mali. On va revenir aux questions des auditeurs via le réseau Facebook. Alors, plusieurs questions, je vais vous les soumettre. D'abord celle-ci, Stéphane Besançon. Est-ce bien de prendre une bière ou une boisson fraîche après le sport ? C'est Fulciano du Bénin, d'Abomé, qui nous pose cette question. On revient toujours à la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'il faut boire pour se réhydrater ? La bière, c'est quelque chose à conseiller ou...
Bon, je pense que si on doit conseiller quelque chose en termes de santé, la recommandation, c'est d'aller vers la boisson que conseillait Jean-Marc tout à l'heure, c'est-à-dire un demi-volume de jus de fruits, l'autre volume d'eau gazeuse et un peu de sel, plutôt que vers de l'alcool, puisqu'on sait quand même que l'alcool, c'est pas la première recommandation qu'il faut avoir en termes de santé. La réhydratation, par contre, au sens réhydratation, oui, c'est central après une activité physique, il faut absolument se réhydrater, et la boisson que conseillait Jean-Marc permet de ramener du sucre, permet de ramener des minéraux, permet de ramener un peu de vitamines, etc., donc ça me semble plus opportun que de boire une bière.
C'est distinguer ce qui réhydrate et ce qui désaltère, c'est pas forcément la même chose.
Oui, aussi, c'est important de ramener, de bien penser que dans l'activité physique, on perd aussi des minéraux, ben, les choses, et qu'il faut absolument en recapter.
Alors, autre question là, très concrète, hein, on parle d'une maladie chronique, c'est Estamine, message Facebook, quel sport peut pratiquer une personne qui souffre d'arthrose, docteur Sen, docteur Jean-Marc Sen?
Ah, la question est intéressante. Alors l'arthrose, ça, j'ai envie de dire d'abord, ça dépend de la localisation. Ce que l'on sait aujourd'hui, et qui est parfaitement démontré, c'est que le fait de mobiliser une articulation qui souffre d'arthrose, ça c'est un facteur bénéfique pour pouvoir entretenir cette articulation et limiter l'évolution. Évidemment, c'est ni trop ni trop peu. Trop peu, on sait que le cartilage a tendance à s'altérer plus rapidement, trop aussi, parce que les contraintes mécaniques le forcent. Alors souvent l'arthrose siège au niveau des genoux, hein, c'est en tout cas une localisation extrêmement fréquente, et donc effectivement la marche va être intéressante, et en revanche s'il y avait la course serait à déconseiller, et puis on peut imaginer de la marche par exemple avec ce qu'on appelle la marche nordique, avec des bâtons, hein, pour essayer de diminuer un peu les contraintes au niveau des genoux, ou alors faire d'autres activités qui permettent de mobiliser les genoux mais sans les contraintes, par exemple sur un vélo. un vélo elliptique ou autre, ce qui permet de faire des flexions de genoux, des mobilisations, mais sans avoir le poids qui porte dessus. Donc voilà, c'est mobiliser, utiliser cette articulation sans que, un élément pratique, tiens, concret qui peut être simple, c'est d'éviter de vérifier que l'articulation ne gonfle pas et ne fasse pas trop mal. Si après, le lendemain ou dans les jours qui suivent, l'articulation n'est pas chaude, douloureuse et gonflée, eh bien ça c'est un bon signe pour dire qu'elle supporte bien l'exercice physique.
Donc oui, on peut faire du sport quand on souffre d'arthrose, juste choisir l'activité qui correspond précisément à ce mal dont on souffre. On va prendre une dernière auditrice au téléphone. Cette auditrice est Aminata, elle nous appelle de Paris. Bonjour Aminata.
Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Donc ma question est la suivante. Donc, j'aimerais savoir si le fait de faire 30 minutes de jogging le matin est suffisant pour avoir une hygiène de vie correcte. Et est-ce que faire du sport est forcément intense dans l'activité, faire du sport, moi personnellement je fais 20 abdos tous les soirs, ça me suffit largement. Est-ce que c'est bénéfique ou pas?
Alors, une question sur le dosage, l'intensité de ce sport, docteur Jean-Marc Sen.
Alors, ce qui est important, c'est de faire une activité physique et sportive qui soit adaptée à ses capacités. Alors, quand on dit, et ce qui est le plus grand bénéfice, bien sûr, pour la santé, c'est une activité modérée. Alors, modérée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'alors, je fais une activité physique, je suis légèrement essoufflé, je suis encore capable de parler tout en faisant mon activité. Là, ça veut dire qu'on a une intensité qui est modérée pour la personne qui la pratique. Alors, 30 minutes par jour, bien sûr, c'est tout à fait 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, on est tout à fait dans les guidelines qui sont proposés aujourd'hui. Ce qui est aussi proposé, et ça c'est quelque chose que l'on dit depuis très très longtemps, c'est de varier là aussi l'activité, c'est-à-dire associer des exercices d'assouplissement, du travail de l'équilibre de la proprioception, du travail de renforcement musculaire. Et en fait, c'est l'ensemble de ces types d'activités, l'ensemble du développement de ces conditions physiques qui va faire que finalement, on va avoir un bénéfice maximum pour la santé. Donc oui, pourquoi pas un peu de footing, un peu de stretching, un peu de renforcement d'abdos, etc. Travail de l'équilibre aussi et des appuis. Et là, c'est magnifique.
Voilà, encouragement, continuer, diversifier. Merci beaucoup Aminata en ligne de Paris. Bien. Excellente journée. On va juste poser une dernière petite question. Il nous reste quelques petites minutes. Mais vous allez comprendre, docteur Sen. Facebook, Mauritanie, Nouakchott, c'est Karim. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport. Comment reprendre?
Comment reprendre une bonne habitude? Alors, on est là dans la modification du comportement. Alors, ce qui est important, c'est qu'il a déjà fait du sport. Et ça, c'est important. Donc, il va falloir qu'il vise un sport qu'il aime beaucoup. Reprendre progressivement, c'est-à-dire avec une intensité modérée. Et puis surtout, essayer d'être régulier avec une bonne préparation physique au départ, c'est-à-dire en renforçant sa sangle abdominale et puis en perdant un tout petit peu de poids. Voilà. Très
un conseil
rapidement.
D'ailleurs qu'on peut donner à tous les auditeurs de Priorité Santé.
Quasiment tous les auditeurs de Priorité Santé.
Merci messieurs. Stéphane Besançon, un nutritionniste directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et à vous, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport à Paris, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. À Cetoussamaké, Ophélie Lassène, Sigrid Azéroual et Didier Bleu. Demain, nous répondrons à une question: comment gérer ses émotions? On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.